mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Parce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette 7e émission de Dicotylédonde. On est au mois de juillet et l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un épisode d'été, bricolé à distance puisque nous sommes ce mois-ci éparpillés, et pas que pour des vacances, entre les Alpes et les Pyrénées. Malgré tout, on est ravis de ce qu'on s'apprête à vous présenter. Figurez-vous que le 25 juin dernier, la Société d'horticulture de Marseille a organisé, à la Cité de l'agriculture, au Réformé, une conférence intitulée « Cueillette ». Plantes sauvages et savoir-faire immigrés à Marseille, un ancrage territorial et culturel par-delà les rives de la Méditerranée. Présentée par Flaminia Padéou et Fabien Roussel, géographes à l'Université Sorbonne Paris Nord, cette conférence, première présentation publique de leurs travaux de recherche, a été enregistrée par la Société d'horticulture de Marseille et nous vous proposons donc, pour cette 7e émission, un montage de ce qui s'y est dit. Un petit avertissement d'abord, la salle était bondée, les trois ventilateurs réglés au max, l'enregistreur en panne, bref, tout ça pour vous prévenir, le son n'est pas très bon. Excusez-nous auprès de vos oreilles sensibles, ce que Flaminia et Fabien racontent des pratiques de cueillette à Marseille nous a paru tellement passionnant qu'on fait le pari que le bruit de fond saura se faire oublier et que cette conférence vous captivera autant qu'elle nous a donné envie de vous la partager. Avant que ça commence, on vous lit le résumé de la conférence. Dans des contextes métropolitains denses, cueillir des plantes apparaît comme une pratique incongrue. Pourtant, dans les interstices végétalisés de Marseille, beaucoup d'habitants et d'habitantes cueillent, notamment des personnes d'origine immigrée. Elles font usage de leur savoir et savoir-faire, s'approprient leur territoire de vie et participent à leur subsistance et à leurs soins. Nous sommes une équipe de géographes, accompagnés du photographe Geoffroy Mathieu, et nous avons enquêté depuis 2023 sur les plantes cueillies, les espaces de cueillette et les savoir-faire des populations d'origine immigrée, notamment maghrébine, dans le centre-ville et les quartiers nord de Marseille. À travers une interaction directe avec la flore, se forme un type particulier de relation écologique aux lieux habités, entre territoire des origines et territoire de vie, par-delà la Méditerranée.
À toutes et à tous, ça va, vous m'entendez bien? Un grand merci Stéphanie pour ton invitation et puis aussi à toute la Société d'horticulture et d'arboriculture des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Élise et la Cité de l'agriculture pour votre invitation. Et merci à vous tous et toutes d'être présents malgré la chaleur et la concurrence de la plage. On est vraiment honorés que vous preniez le temps de nous écouter aujourd'hui. Alors, donc effectivement, moi je suis Flaminia Padéou, Fabien Roussel. Là, on est deux représentants en fait, d'un projet collectif qu'on a mené en fait, avec d'autres collègues de l'Université Paris-Nanterre, de l'Université Paris 8 et une étudiante d'AgroParisTech. Et en fait, on est tous dans un même projet qui s'appelle Cueillir en ville, qu'on a débuté en 2023. Et en fait, qui est un projet sur la manière dont la cueillette des plantes par des populations immigrées ou d'origine immigrée révèle en fait pour nous des formes d'appropriation de leur territoire de vie et participe aussi à une forme d'écologie populaire. Donc c'est ça un petit peu la base de notre projet. On a deux volets. Un premier volet, en fait, qui est une enquête de terrain qu'on a menée en région parisienne auprès de femmes chinoises qui pratiquent la cueillette de manière régulière. Et donc un second volet avec un terrain marseillais où là, on s'est intéressé plutôt au savoir-faire immigré. On va le voir notamment beaucoup de populations maghrébines. On va replacer ça un peu dans les pratiques de cueillette à Marseille de manière plus générale avec ce décalage un peu de penser que finalement cueillir en ville c'est une pratique incongrue, mais qu'en fait si on mène une enquête on se rend compte qu'il y a bien des pratiques qui existent. Donc c'est la première fois qu'on présente en fait ces résultats, donc on est vraiment très content de les partager avec vous. C'est encore des résultats qui sont inaboutis, qui sont parcellaires. Je vais commencer par une petite introduction, une première partie, puis je passerai la parole à Fabien. Alors, sans vouloir vous assommer avec trop de références, mais on voulait juste faire un très court moment sur en fait, ce qui est dit dans les travaux scientifiques sur la cueillette en ville. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que la cueillette en ville est bien pratiquée en fait, dans de nombreuses villes, à la fois dans le sud global et dans les pays du nord, de manière diffuse, de manière discrète, dans beaucoup de types d'espaces végétalisés. Mais en fait par des populations très différentes, c'est-à-dire d'une part par ceux qu'on peut appeler des néo-cueilleurs, qui sont plutôt en fait des personnes issues des classes moyennes, souvent blanches, qui vont avoir une appétence pour la redécouverte de la botanique et qui vont réapprendre en fait ces savoirs. Et puis aussi par des populations immigrées ou d'origine immigrée, qui appartiennent souvent, pas que, hein, mais souvent aux classes populaires, qui en fait sont plutôt dans la persistance de pratiques qu'ils pouvaient, par exemple, pratiquer dans leur pays d'origine pour des motifs alimentaires et médicinaux. Et en fait, alors que cette pratique de cueillette, elle est particulièrement réalisée par ces populations, il y a très peu de recherches qui portent là-dessus, et notamment sur la relation entre les migrations humaines, les usages des plantes et la cueillette des plantes. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait matière à documenter ça. Et pourquoi Marseille nous a intéressés, en fait, pour ces deux qualités en fait, particulières, à la fois sa dimension de ville cosmopolite ou de ville-monde qui en fait un espace où il y a beaucoup de migrants et leurs descendants, mais aussi la dimension de Marseille ville sauvage, notamment par rapport à la place prépondérante qui occupe la végétation spontanée. Et d'autre part, pourquoi ça nous a particulièrement intéressé aussi Marseille, c'est cette urbanité qui est caractérisée par beaucoup d'espaces ouverts, non publics, faiblement entretenus et contrôlés, comme les friches, les délaissés, les anciens terrains agricoles, les anciens terrains bastidaires, les arbres isolés, les garrigues collinéennes, la végétation littorale, enfin voilà, j'en passe. Qu'on retrouve en fait beaucoup dans les quartiers péricentraux et notamment dans les quartiers populaires de Marseille et qui en fait constitue the show must go on, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé mais constitue en fait des espaces d'opportunité de cueillette qu'on retrouve pas en fait dans toutes les villes quoi. Il y a vraiment cette spécificité de la nature marseillaise. Mais pourtant, des opportunités qui sont finalement de moins en moins nombreuses face aux dynamiques, là aussi, qui ont été bien montrées par un certain nombre de chercheurs, d'urbanisation, d'artificialisation, de gentrification ou de résidentialisation croissante qui touche en fait différents quartiers marseillais. Alors la question qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui et qui a guidé notre recherche, c'est de comprendre ce que ces pratiques de cueillette des personnes d'origine immigrée à Marseille révèlent à la fois des transmissions, des circulations et des mises en pratique de ces savoir-faire botaniques, mais aussi comment ça participe à l'appropriation de leur territoire de vie. Donc voilà, on est formé en tant que géographe, donc on va avoir une attention particulière sur le rapport au territoire. Alors, on veut prendre le temps peut-être de vous dire comment on a travaillé. Donc, on utilise en fait un ensemble de méthodes qu'on dit qualitatives, qu'on retrouve en fait dans beaucoup de sciences sociales, comme la sociologie, comme l'anthropologie, comme voilà, des entretiens, de l'observation. Alors, c'est un terrain qu'on a réalisé entre 2023 et 2024. On a fait 6 séjours. On était là principalement au printemps, à l'été, un petit peu en automne. Et on a surtout visé 3 types d'enquêtés. Donc, évidemment, des cueilleurs et des cueilleuses de toutes sortes. Donc, on avait une attention particulière pour celles et ceux issus de l'immigration, mais on a aussi discuté avec toutes sortes de cueilleurs. On est aussi allé voir des salariés et des membres d'associations qui sont liés à ces questions de cueillette. Et aussi quelques entrepreneurs, surtout des entrepreneuses en fait, qui pratiquent la cueillette de manière professionnelle. Et enfin, de manière un peu moins importante, on a contacté quelques élus chargés des espaces verts. Donc en tout, on a rencontré 58 personnes avec qui on a eu des échanges, parfois très approfondis, des gens qu'on a revus plusieurs fois sur plusieurs années. Et d'autres, voilà, des échanges un peu plus succincts. Donc, on a fait beaucoup d'observations, en fait, avec des personnes qui cueillent dans différents espaces. Des conversations informelles, quoi, souvent, en marchant, en cueillant. Ça nous permettait de discuter, d'essayer de comprendre un peu les pratiques. Et les entretiens semi-directifs, c'était plus, en fait, avec les membres des associations, par exemple. Et on a aussi fait tout un travail, c'est là qu'on sort un petit peu des méthodes classiques des sciences sociales, un travail de recension ethnobotanique où en fait on a recensé toutes les plantes mentionnées et spécifiquement cueillies à Marseille, et Fabien vous en parlera plus spécifiquement tout à l'heure. Alors ça, on a rencontré quelques difficultés. La première, et qui était le cas aussi à Paris, c'est celle d'entrer en relation avec des cueilleurs dont les pratiques sont discrètes. Donc pour ça, en fait, ça passe par le bouche à oreille, des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, par les associations, mais aussi par le hasard. On a passé de longues journées, en fait, à aller marcher un peu dans des espaces de friches, de jardins. Et parfois, on a eu des journées où on est rentré totalement bredouille, et parfois, on a fait des rencontres incroyables. Mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. D'autres difficultés, ça a été de poursuivre une enquête de manière fractionnée, puisqu'aucun de nous n'habite à Marseille, qu'on a nos activités d'enseignement à Paris, donc c'est pas toujours facile. On n'a pas de capital d'autochtonie, on était des Parisiens à Marseille, donc on a dû se familiariser aussi avec la géographie sociale et politique de la ville, ou encore un problème classique de solliciter des personnes, de leur demander des choses sans pouvoir toujours donner de contre-don. Voilà, donc ça fait partie des problèmes qu'on a plus ou moins réussi à contourner selon les moments. Alors comme je vous le disais, on a au départ, avant de se fixer en fait sur des espaces en particulier, arpenté pas mal d'espaces. Alors je pense que c'est peut-être en petit pour ceux qui sont au fond, mais les points blancs là, ça fait partie des espaces où on est allé voir, où on a passé du temps, on a rencontré des gens. Et qui ont été en fait pour nous une manière de nous familiariser avec le terrain. Et en fait, on a fini la deuxième année par sélectionner 3 quartiers qui regroupent une dizaine de sites. Donc le quartier de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement, et notamment le jardin Leva, le quartier de Sainte-Marthe et Saint-Barthélemy dans le 14e, notamment le parc agricole ou la cité SNCF, et enfin le quartier de Plandao dans le 15e, et notamment le site de la gare Franche. Alors comment on les a choisis ? D'abord en fonction de la géographie sociale de Marseille, en choisissant des quartiers populaires où vivent une forte proportion de personnes immigrées ou issues de l'immigration, de notre capacité à nouer des contacts via des associations, via des institutions. Il y a des, comme disait Stéphanie, il y a des rencontres qui se sont faites et d'autres moins. Et aussi en fonction des opportunités ou du hasard en parcourant certaines friches et du coup qu'on a inclus dans notre terrain. Alors, j'en viens vraiment au cœur de la présentation qui va se dérouler en 3 temps. Moi, je vais d'abord vous présenter un peu les acteurs de la cueillette de plantes, et puis je laisserai la parole à Fabien pour un point sur les espèces, les espaces, mais aussi les pratiques et les connaissances autour de ces plantes.
Vous êtes toujours sur Dicotylée d'onde à l'écoute d'une conférence de Flaminia Padeou et Fabien Roussel intitulée « Cueillette, plantes sauvages et savoir-faire immigrés à Marseille, un ancrage territorial et culturel par-delà les rives de la Méditerranée ».
Acteurs et les profils de la cueillette pour replacer un peu notre sujet. À Marseille, il y a une pluralité d'acteurs qui pratiquent la cueillette de plantes, qui est souvent insérée dans un continuum d'activités autour de la nature, du jardinage, de la subsistance, de l'alimentation ou encore de la marche. On distingue d'une part les activités professionnelles, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales, et dans une diapositive suivante, je vous parlerai plutôt des pratiques habitantes hors des institutions. Alors, au sein de ces activités professionnelles, on va retrouver des acteurs de l'action sociale et de l'animation territoriale. Donc des assos, des collectifs, des centres sociaux qui en fait ont d'abord des missions sociales dans les quartiers populaires où on va retrouver des travailleurs sociaux et des militants, mais qui, dans les dernières années, ont intégré l'écologie populaire comme une activité en fait importante qui mobilise les habitants et souvent en fait en écho à des désirs qui viennent de la part d'habitants qui s'intéressent au savoir-faire autour des plantes. On va retrouver aussi les acteurs des milieux de l'art et de la culture, donc des artistes, des institutions culturelles, des associations qui ont plutôt un positionnement alternatif dans le monde de l'art et de la culture, mais qui disposent d'un certain capital symbolique et de certaines ressources, et qui se sont notamment spécialisés dans l'arpentage des espaces ouverts à travers, par exemple, la pratique de la marche, la pratique du spectacle de plein air, et qui ont comme enjeu de visibiliser ou de valoriser les savoir-faire botaniques et alimentaires des habitants. Donc, c'est souvent des projets d'art public ou participatifs. Troisièmement, on va trouver un petit entrepreneuriat autour des plantes comestibles, où là, je vais parler au féminin, parce que c'est vrai qu'on retrouve surtout des femmes, et notamment des jeunes femmes, donc des jardinières, des agricultrices, des cuisinières, qui créent en fait une activité économique en cueillant, mais aussi en cultivant des plantes aromatiques et comestibles, notamment à destination de la restauration locale. Donc là, il y a un peu un continuum entre agriculture, jardinage et cueillette. Et enfin, quatrièmement, on trouve des acteurs du monde de l'ethnobotanique, souvent des formateurs et des formatrices, là aussi on a beaucoup de femmes, mais pas seulement, qui en fait ont des connaissances très spécifiques approfondies en botanique et qui visent à les diffuser auprès du grand public autour de sorties cueillette, ateliers de transformation par exemple. Et du coup, en fait, en dehors de ces cercles, il y a aussi des pratiques habitantes, donc de gens qui font de la cueillette de leur côté, hors de ces sphères-là. Et là, il y a deux types de cueillettes un peu qui revenaient, les cueillettes qu'on peut qualifier de provençales. Pourquoi de provençales? Au sens parce qu'elles sont beaucoup pratiquées par des habitants de longue date du territoire marseillais et de ses alentours, dont beaucoup sont âgés ou parfois retraités, même si on trouve de manière minoritaire un peu des néo-marseillais plus jeunes qui pratiquent aussi ce type de cueillette. Elle s'inscrit dans des terroirs marseillais emblématiques, les collines, le littoral, enfin voilà, le Terradoux, Et elle cible des espaces qui sont traditionnellement utilisés dans la cueillette provençale, avec des recettes provençales qui vont être beaucoup mentionnées. Le fenouil sauvage pour aromatiser le poisson, enfin voilà, des choses qui reviennent assez souvent. Et enfin, et c'est ce sur quoi on va plutôt développer, les cueillettes immigrées. Et évidemment, bien sûr, ces catégories, c'est une manière de clarifier les choses, mais elles ne sont pas figées. Il y a plein de relations entre ces catégories. Il y a des habitants d'origine immigrée qui pratiquent la cueillette de leur côté, mais qui vont aussi être partie prenante de dynamiques associatives. Bon voilà, il y a plein de cas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ces personnes qui cueillent dans les quartiers populaires et qui ont donc d'autres origines que des origines françaises? Alors, ces personnes ont des origines variées. Notamment, on a recensé en fait des personnes qui cueillent à Marseille originaires du Moyen-Orient, des personnes turques, kurdes, originaires d'Afghanistan, du Liban, des personnes asiatiques, principalement de Chine, des personnes africaines, principalement des Comores ou du Tchad, des personnes de la communauté Rom, et surtout, celles qui sont les plus représentées, ce sont les personnes maghrébines, issues du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Et au sein des personnes maghrébines, c'est surtout l'origine algérienne, et notamment les communautés berbères, kabyles ou chaouis, qui sont particulièrement surreprésentées. On ne s'en rendait pas forcément compte sur le coup, mais là, quand on a re-regardé notre matériau, c'était vraiment très clair en fait qu'il y avait vraiment une surreprésentation. Comme le dit par exemple une cueilleuse kabyle, nous on connaît les mêmes plantes, tous les kabyles connaissent les mêmes plantes parce qu'ils viennent des montagnes. Tous les gens qui habitent les montagnes, ils connaissent, en montrant un figuier, et donc en insistant sur cette culture kabyle partagée de la cueillette. En termes de genre, on a une grande majorité de femmes, à la fois dans les pratiques de cueillette, mais aussi dans celles de transformation et de transmission. Donc, à la fois, ce sont celles qui pratiquent le plus la cueillette, mais ce sont celles aussi qui vont le plus aux activités organisées par les associations, souvent avec, et je pense que c'est pas que le cas pour la cueillette, mais pour pas mal d'autres activités, souvent avec leurs enfants. Alors que de leur côté, les hommes vont se spécialiser dans d'autres activités en lien avec la nature. Ça va être par exemple le jardinage ouvrier, l'élevage informel ou encore la passion pour les oiseaux en cage, par exemple, qui est important chez les hommes kabyles. Et donc ces femmes, elles ont plutôt entre 50 et 80 ans et elles appartiennent à la première ou deuxième génération d'immigrés. Elles appartiennent aussi souvent aux classes populaires plus ou moins stabilisées ou précarisées. Alors on n'a pas toujours réussi à connaître la profession en fait de toutes ces personnes, mais on a remarqué que beaucoup d'entre elles ont exercé ou exercent encore dans des métiers féminisés, dont on dit du secteur du care, hein, du soin. Donc par exemple le fait d'être sage-femme ou infirmière. On a d'autres femmes qui sont plutôt éloignées du salariat parce qu'elles sont en charge du travail domestique et des enfants. On a des femmes à la retraite ou encore des femmes qui travaillent dans le secteur associatif. Elles vivent majoritairement donc dans des quartiers populaires du centre-ville ou du nord, parfois dans des logements sociaux, parfois dans des habitats plus précaires. Et elles sont nombreuses à faire des allers-retours réguliers au bled. On en reparlera, qui a une importance aussi dans l'activation de leur relation aux plantes. Et enfin, ces cueillettes sont principalement effectuées pour un usage personnel et familial. Mais de manière plus minoritaire, on a rencontré des personnes qui vendent leurs produits de cueillette sur les marchés. Et donc, on voulait vous présenter, là, je vais terminer ma partie en vous présentant deux portraits, en fait, de personnes qui représentent des manières différentes de cueillir. Alors, ce premier portrait, donc c'est celui d'une femme, Kabyle, qui est originaire de Tizi Ouzou. Donc, on la voit un petit peu de dos, là, en train de cueillir. Elle a 48 ans au moment où on la rencontre par hasard lors de l'arpentage d'une friche. Donc elle habite le centre-ville de Marseille depuis 9 ans. Enfin, elle est en France depuis 9 ans et elle n'a pas de papier. En Algérie, elle travaillait dans le secteur de l'éducation. Hein, on retrouve un peu ce secteur du Caire. Et elle s'est mise à cueillir seulement depuis 5 ans lorsqu'elle a appris qu'un vendeur de chardons d'Espagne, donc on voit ici là, les chardons d'Espagne, c'est ce qu'elle est en train de cueillir. C'était fait, je la cite, 700 euros en une journée. Donc en fait, elle se rend compte en rencontrant quelqu'un que ça peut être assez lucratif de cueillir. Du coup, elle cueille dans les friches et les collines de Marseille et ses environs. Elle sort de la ville aussi. Elle cueille même en hiver et parfois de nuit à la frontale des espèces comme donc, le chardon d'Espagne, mais aussi la verveine, le laurier, le thym, la mélisse, le fenouil, les blettes ou encore les amandes, qu'elle revend directement ou elle passe par un revendeur sur les marchés de Castellane et de Noailles. Elle nous dit qu'elle connaît au moins une vingtaine de personnes qui font comme elle, mais où on a eu beaucoup de mal en fait à rencontrer d'autres personnes. Et elle dit surtout des Kabyles, des Arabes et des Chaouis. Donc elle, en fait, l'argent qu'elle gagne en liquide, elle en garde une partie sur son compte bancaire algérien, mais elle en envoie aussi une autre partie au pays. Pour sa famille, selon un système bien connu, en fait, qu'on appelle de remise migratoire. Donc, ça lui permet d'avoir des rentrées d'argent, alors parfois conséquentes, même si on n'a pas réussi à évaluer la véracité de ses dires, mais elle nous dit, par exemple, qu'avec la verveine, elle peut gagner 2000 euros en un mois. Voilà, ça paraît beaucoup, mais elle dit aussi qu'elle adore passer du temps pour la nature et que, voilà, en fait, elle aime être dehors, quoi, faire ce métier du dehors. Un deuxième portrait donc, d'un cueilleur très différent, voilà, malheureusement qui est disparu récemment et à qui on souhaite rendre hommage. Donc, c'était un homme de 65 ans au moment de notre rencontre, d'origine algérienne également, mais lui qui est né et a grandi à Marseille, dans les quartiers nord, dans le 14e. Il était marié et il vivait toujours dans les quartiers nord, où il travaillait dans le secteur associatif de l'action sociale, autour de l'accès à l'alimentation et au jardinage. Avec sa femme, ils avaient créé une association en 2021 autour du jardinage et ils se sont lancés dans une pratique extrêmement active de cueillette dans les interstices des quartiers nord. Donc, il cueillait régulièrement des figues, vous voyez, avec une perche qu'il a spécialement construite. En fait, c'est une canne à pêche. Et il a mis une bouteille de médicaments avec une encoche en haut qui lui permet de viser les figues et de tourner comme ça d'un geste sec pour ensuite les déposer dans la cagette que vous voyez. En fait, il fait ça, et ouais, il faisait ça et extrêmement, extrêmement bien. Il cueillait aussi des prunes dans un coin qu'il connaissait quand il était petit, des nèfles sur des néfliers entre les cités, mais aussi des olives dans une ferme urbaine qui pressait pour faire de l'huile. Et sa femme, en fait, elle était spécialisée dans la transformation des produits de cueillette. Donc elle fait beaucoup de produits, de pesto, de confiture, de pain, à partir des plantes et de ces produits-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces produits de cueillette, ils étaient redistribués gratuitement aux habitants. À chaque fois qu'il y avait une cueillette, ils mettaient un message sur les réseaux sociaux en disant... voilà, il y a tant de kilos de figues à tel endroit, venez les récupérer. Ou alors, ils étaient utilisés lors d'événements associatifs. Et donc, c'était un mode de vie pour sa femme et pour lui qui lui permettait aussi de traverser des problèmes de santé et de participer à leur approvisionnement en fruits et en légumes et à ceux de leurs voisins, même si, bien sûr, ils précisaient le caractère très singulier de leur mode de vie et la difficulté à le généraliser. Voilà, je m'arrête sur ces portraits et je passe la parole à Fabien.
Oui, merci Flaminia. Alors moi, je vais vous parler des espèces et des espaces de la cueillette dans cette deuxième partie. Vous présentez d'abord la flore. Pour commencer par vous dire qu'au total, on a recensé 119 espèces cueillies, tout cueilleur compris. Et que sur cet ensemble, on a différencié, par rapport à l'objectif du projet, les plantes cueillies par les personnes, les cueilleurs et les cueilleuses d'origine immigrée, et puis celles qui étaient plus traditionnelles de personnes d'origine, on va dire, provençale, marseillaise, plus ancienne.
Et on vous avait prévenu, c'est là que l'enregistreur tombe en panne. Vous ne saurez donc pas quelles sont les plantes les plus cueillies par ces personnes immigrées rencontrées par l'équipe de géographes sur le terrain, ni les lieux dans lesquels elles sont ramassées. Les espèces et les espaces de la cueillette, c'est le chapitre mystère de cette présentation. Mais, quelle chance, la personne en charge de l'enregistrement a dégainé son téléphone. Tout de suite, donc, les enjeux de la transmission des connaissances dans ces pratiques de cueillette. Que ce soit via Internet, par le biais des voisins ou de la communauté, les savoirs cueillir se transmettent. Et c'est ce que nous présente Fabien Roussel en nous parlant des pratiques et des savoirs de cueillette que l'équipe a rencontrés sur le terrain. Bonne écoute! Encore une fois, pardonnez-nous la qualité sonore.
Alors, d'autres formes de transmission émergent aussi, hein, néanmoins, via d'autres canaux d'information. Des transmissions interculturelles, on en a pu en constater. Par exemple, un cueilleur qui réalisait des tisanes à base de feuilles séchées de géranium rosa, qu'il avait appris de personnes comoriennes. Donc des échanges qui se font aussi comme ça. D'autres enquêtés qui évoquent les réseaux sociaux comme source d'information sur les plantes et leurs usages. Une cueilleuse, en évoquant sa fille, alors j'ai pas mis la citation, mais je vous la lis, hein, c'est assez rigolo, elle nous disait « Moi, je sais que ma fille, en ce moment, elle me demande le romarin. Elle me dit « Ramène-moi du romarin parce que ça marche sur les cheveux. » Elle le fait bouillir, elle le met dans des bouteilles et elle fait des soins. Ça a l'air de marcher. Dès qu'il y a une plante à la mode, parce qu'on en a parlé sur TikTok, du coup, cette plante, elle est recherchée par tout le monde. » Donc voilà, la technologie arrive quand même à faire ressortir des envies. Parfois partiellement enfouies, hein, ces connaissances sur les plantes, en fait, elles refont surface au fil de questions et de discussions. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était un petit peu des savoirs en veille, parce qu'ils sont présents, mais ils ne sont pas nécessairement conscientisés. Ça recoupe, en fait, de près... l'expérience racontée par une artiste hein, rencontrée dans notre terrain, qui nous disait, au départ, tout le monde disait, on n'a aucun lien avec les plantes, on connaît rien, on connaît aucune plante. Et puis, c'est en marchant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de connaissances. Lors d'une balade botanique organisée par la même occasion, elle nous faisait part d'ailleurs d'une jolie métaphore pour qualifier ses savoirs, qui seraient comme des banques de graines hein, qui sont présentes dans le sol, qu'on ignore, mais qui fleurissent lorsqu'on travaille un peu cette terre. Alors, ces connaissances botaniques sont mises en mouvement, elles sont réactualisées au gré de balades, initiées par des collectifs, mais aussi de projets artistiques, et surtout de pratiques de cuisine collective. La pratique de la cuisine collective va faire réémerger des envies, des connaissances un peu oubliées, et l'envie de s'y remettre. Alors, malgré ces connaissances acquises, et à part les deux portraits hein, qu'on vous a fait, qui sont finalement très intégrés à leur espace de vie, il y a différentes raisons qui vont venir expliquer qu'il y a des contrastes assez forts entre un savoir-faire, un savoir qui est hérité, qui est bien établi sur les plantes, puis le fait que ce n'est pas toujours activé. Elles ne le font pas forcément. D'abord parce qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement que la cueillette. Il y a les marchés, les épiceries. Puis parfois, les plantes, elles sont directement ramenées hein, du pays. C'est ce que nous disait hein, une habitante hein, dans le quartier du Plan d'Aou. que en général les femmes elles préfèrent acheter les plantes ou voir les faire ramener du pays pour les cuisiner, ayant finalement des doutes sur la place de ces plantes locales. Donc une forme de stigmatisation aussi de la cueillette perçue comme une pratique de pauvre. Cette stigmatisation de la cueillette, elle est très présente au sein de la première génération immigrée, qui n'a pas permis de garder vraiment ces pratiques-là. Je vous en donne un exemple ici avec cette citation. Ma mère, elle avait honte de ramasser parce qu'elle venait d'arriver. Du coup, c'était un peu, si on était bien intégré, il ne fallait pas faire ça. Même nous, je veux dire, on lui criait dessus. Et c'est dommage. Et là, tout le monde revient un peu à ça. Autre barrière, contrainte, le fait qu'il y a une prudence aussi sur les cueillettes. Peut-être en lien avec cette prise de distance de la première génération vis-à-vis de la cueillette. Il y a cette prudence qui existe. À cueillir seul, notamment. Au regard des espèces, pour ne pas se tromper, de leur potentiel, donc nocivité, mais aussi de la qualité des lieux de cueillette, au regard de la présence de déchets, de déjection canine, les entretiens réalisés avec les femmes et les observations des acteurs de la cueillette à Marseille mettent également en lumière le besoin de recourir en quelque sorte à des intermédiaires pour s'assurer que c'est la bonne plante et que c'est les bonnes conditions pour ramasser. Autre contrainte, des mobilités qui ne sont pas simples pour accéder aux espaces liés à la question des transports, à l'espace urbain fragmenté, qui est un facteur limitant. J'ai évoqué le fait que, et ça a été confirmé par des collègues chercheurs marseillais, spécialistes des espaces verts, que ces populations dans ces quartiers ne se rendent pas dans les espaces en dehors de Marseille, ne vont pas dans les calanques, ne vont pas dans les collines. Parce que c'est compliqué, parce que ça rentre pas dans l'emploi du temps. Et ça, c'est un lien avec un dernier point, qui est la charge familiale et domestique, dont sont l'objet surtout les femmes, qui sont prises par d'autres activités liées à leur charge domestique, qui ne laissent pas le temps de payer. Alors, dernière diapo et on fera la conclusion. Au final, quand même, on voit qu'il y a de multiples sources de motivation pour cueillir. Un lien à la terre comme ancrage, aussi, on n'a pas invoqué, mais soutien à l'activité physique, mentale, de bien-être. Ça, c'est le dernier point, j'y reviendrai. Le fait aussi de réactiver des connaissances héritées, de les partager, et de refaire lien ensemble sur le plan social. De plaisir à être dans un espace, à être ensemble dans un espace, à ensuite aller vers des moments partagés. Je te laisse la parole pour la conclusion.
Je conclue super rapidement pour qu'on ait le temps de discuter, mais voilà. Ce qu'on voulait vous montrer, en fait, c'est que ça reste une pratique, cette cueillette, qui est encore active pour une partie des personnes, mais qui est plutôt en veille. Pour d'autres, comme on l'a vu, en fait, avec un certain nombre d'obstacles qui font que c'est une pratique en fait qui est difficile à intégrer dans le quotidien, malgré en fait un certain désir, en tout cas, d'aller vers les plantes et les savoir-faire autour de ça. Et on voit comment, du coup, dans le lien avec le champ social et culturel associatif, il va y avoir du coup des liens qui vont être créés entre les habitants, le territoire. Et ces associations qui vont permettre de faire réémerger aussi ces pratiques. On voit à quel point c'est une pratique qui est extrêmement contrainte par les dynamiques métropolitaines marseillaises, mais qui permet en fait à la fois de se relier de manière très fine et en fait originale à son espace, puisque du coup les circulations dans l'espace sont guidées en fait par cette quête de plantes, ce qui est quand même vraiment très 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 particulier. Ça montre aussi que ça nous donne à voir une flore méditerranéenne et surtout à quel point les savoirs sont transnationaux, infranationaux, locaux, se perdent, se transmettent, s'hybrident et qu'il y a ces allers-retours particulièrement intéressants et comment cette pratique permet à certaines personnes de s'ancrer d'une manière vraiment spécifique dans les réalités à la fois urbaines et écologiques de Marseille. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention.
Vous venez d'écouter la captation d'une conférence organisée par la Société d'horticulture de Marseille à la Cité d'agriculture à Marseille. Une conférence donc de Flaminia Padéou et Fabien Roussel. Cueillette, plantes sauvages et savoir-faire immigrés à Marseille, un ancrage territorial et culturel par-delà les rives de la Méditerranée. On les remercie énormément de nous avoir permis de diffuser cet enregistrement, première présentation publique de leurs travaux. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de Radio Galère à la page de l'émission Dicotylé d'onde sur radiogalère.org. Vous avez aussi écouté deux morceaux de groupes qui, à Marseille, inventent leur musique par-delà les rives, des sons qui pour nous faisaient sens, une chanson du groupe Benzine, tirée de leur album Nawari, que l'on pourrait traduire par bourgeonne, éclos, fleuri, et une autre du groupe Zaatar, enregistrée à la ferme urbaine du Talus. N'hésitez pas à écouter Dicotylédonde pendant vos vadrouilles estivales. Toutes les émissions sont à retrouver sur radiogalère.org à la page de l'émission Dicotylédonde. Vous pouvez aussi nous écrire et ou nous envoyer les enregistrements sonores de vos balades, de vos cueillettes, de vos promenades dans la forêt à dicoty@ethic.com, dicoty@ethic.com.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone, tulipe, mijette préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Hey, chagadaga, dis donc, oh, ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Hein. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Les poules et le coq se comptent, fleurette, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue bien ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Hey, fine, da da da, oh, oh. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Hein. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ooh, 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 vida, hi. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ouh, 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 ouh. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, oh. Friday, day, 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 hey, ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Hein. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ooh, for Friday, hey, do, di, 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 Friday.
Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude.
Je vais beaucoup mieux.
La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude.
Je vais beaucoup mieux.
La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance.
Je vais beaucoup mieux.
La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre.
Je vais beaucoup mieux.
La danse, la forêt et la solitude.
Trois passions.
La danse, la forêt et la solitude.
Je vais beaucoup mieux.
La danse, la forêt et la solitude.
Trois passions.
La danse, la forêt et la solitude.
Je vais beaucoup mieux.
Dicotylé d'onde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et leurs références sur radiogalère.org.
La 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 la. Pas besoin de fleurir, pas besoin de verdir, calmer les pâquerettes. Ta chercher de contenir, s'efforcer d'endormir les pensées, les violettes. Sermonner le gazon, gronder le liseron, consoler la doucette. Dissuader le chardon, ralentir le mouron et les pieds d'alouette. Venir incognito, planter un écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Venir incognito, planter un écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Ne vivre que d'un œil, empaqueter les feuilles, refuser toute greffe. Désoler le cerfeuil et même à quatre feuilles, décourager le trèfle. Pas besoin d'arroser, pas besoin d'espérer les œillets de poète. À quoi bon jardiner, surtout pas déranger les graines dans leur sieste. Venir incognito, planter un écriteau, venir incognito, planter un écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Inutile en ce jour de penser au labour, d'attendre des cueillettes et les topinambours et les chansons d'amour, les mettre aux oubliettes. Menacer le chien-dent qui cherche l'imprudent à faire une colère. Fermer tous les auvents, attendre cœur battant la première primevère. Venir incognito, planter un écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Venir incognito, planter un écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Mettre les sentiments et les attachements en utile jachère. Laisser négligemment les aveux, les serments rouler dans la poussière. Endormir les chagrins parmi les boulingrins, désapprendre l'ivresse. Se glisser clandestin dans des alexandrins, enterrer les caresses. Rester incognito, garder son écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. Rester incognito, garder son écriteau, pelouse au repos, pelouse au repos. La 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 la. Refleurir au printemps, en prenant tout son temps.